Radio Okapi. Bibi na mitumba kule nyuma. Tout de suite, en ouverture de cette édition de journal, vous aurez des détails sur le financement que le gouvernement congolais a mis à la disposition de la CENI pour organiser les élections. Le ministre des Finances parle de 203 millions de dollars américains déjà réunis. Réuni en congrès depuis ce jeudi matin, le MLC, parti de Jean-Pierre Bemba, peint un tableau peu reluisant de la gestion du pays avec une diplomatie au bas de l'échelle et des faiblesses de tout genre telles dans le monde des affaires. Dans notre dossier de ce soir, Rosalie Zawadi, reporter Radio Okapi depuis Goma, nous fera part des recommandations des miniers des diverses provinces au gouvernement congolais pour une bonne gouvernance du secteur. C'est en vue d'un profit pour les communautés locales. Les infos de la RDC dans toute leur diversité, c'est sur Radio Okapi. Bienvenue, bonsoir à tous. $203 millions, c'est le montant que le gouvernement a jusque-là disponibilisé pour la CENI comme finance en vue des élections. Le ministre des Finances l'a communiqué ce jeudi à la plénière de la tripartite organisée depuis une semaine pour évaluer l'état d'avancement du processus électoral. Au cours de cette plénière, les participants aux travaux ont émis des inquiétudes quant au financement général du processus électoral ainsi que du CENSA, non encore doté d'un local pour son bon fonctionnement. Des détails avec Arsène Zibert Tayo.
Le ministre des Finances a rappelé que dans les prévisions budgétaires 2018, le gouvernement a alloué 435 millions de dollars pour financer les opérations électorales. Selon Henri-Yves Moulang, entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018, la CENI a reçu 203 millions de dollars. D'après lui, le dernier paiement du gouvernement à hauteur de 42 millions a été effectué depuis mardi de cette semaine. Il ajoute que les différents paiements ont toujours été effectués dans le respect du plan de décaissement prévu. En réaction, certains membres de la plénière font remarquer au ministre que le financement du gouvernement ne semble se limiter qu'aux opérations électorales et non à la sécurisation du processus électoral. D'autres relèvent que le CENSA n'est pas doté de moyens financiers conséquents, hormis les frais de fonctionnement qu'il reçoit. Autre point épinglé, l'indifférence du gouvernement quant à l'aide de MONUSCO dans l'organisation des élections, alors que l'accord du 31 décembre 2016 donne à la mission onusienne une certaine responsabilité dans la tenue des élections. En réponse à ces interrogations, le ministre Henri Yave confirme la volonté du gouvernement de financer seul les élections. Il ajoute que la dotation du CENSA n'interviendra qu'avec la finalisation de sa loi organique qui traîne encore au Parlement.
Parlons présentement du congrès du MLC. La secrétaire générale du mouvement de libération pour le Congo, MLC, appelle les partis politiques de l'opposition à l'unité. Selon F. Bazaïba, l'unité de l'opposition est la seule condition pour assurer la victoire lors des prochains scrutins en RDC. Elle s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du troisième congrès de son parti, ce jeudi 12 juillet, ici à Kinshasa. F. Bazaïba, dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Il vous souviendra à ce sujet que le mouvement de libération du Congo s'est toujours investi et œuvre résolument pour obtenir l'unité des forces politiques et sociales pour l'alternance. Le mouvement de libération du Congo, par ma voix, affirme solennellement emprunter toutes les démarches nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire l'unité d'action de l'opposition. C'est la seule condition pour assurer la victoire lors du prochain scrutin. Le combat pour l'alternance est l'affaire de tous. Chacun de nous doit s'y investir pour concrétiser cette attente de la population congolaise.
La RDC a perdu toute crédibilité tant sur le plan diplomatique que sur le plan des affaires. Déclaration de la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, MLC. F. Bazaïba s'exprimait ainsi lors de l'ouverture du troisième congrès du parti, cher à Jean-Pierre Bemba. Selon elle, ces assises permettront au MLC de dégager des directives principales qui vont guider la RDC en tant qu'État dans le concert des nations. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs invités, tant de la majorité que de l'opposition. Si les opposants soutiennent le discours de F. Bazaïba, la majorité estime que ce n'est pas à elle de juger les propos du MLC. Paul Matindo.
Dans son discours, Eve Bazaïba dresse un bilan du gouvernement qu'elle estime négatif, tant sur le plan diplomatique que des affaires. Elle relève par exemple que le passeport congolais et d'autres actes de chancellerie sont déconsidérés à travers le monde. La RDC, ajoute-t-elle, accuse plusieurs faiblesses. À titre d'illustration, Eve Bazaïba parle des matières premières de la RDC qui sont laissées à la merci des pillards d'après elle. Déclaration rejetée par la majorité présidentielle. Son secrétaire général l'a invité à la cérémonie d'ouverture du congrès du MEDC répond que l'autorité de l'État est une réalité à travers toute l'étendue du pays. André Alain Atundu.
L'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, c'est ce qui est une réalité. La considération dont jouit notre président de la République sur la scène internationale, c'est une réalité. L'afflux des investisseurs dans notre pays, voilà des réalités.
Côté de l'opposition, c'est notamment le parti Orange du Don de la Voix. Son président estime que le propos d'Eve Bazaïba reflète la réalité. Fillon Dondoboni.
Non, les discours reflètent la réalité. Nous sommes un État qui donne la forme de non-État.
La secrétaire générale du MLC appelle à l'unité de l'opposition pour assurer l'alternance pacifique au sommet de l'État.
De son côté, le collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo, Kinshasa Kojeski, demande au gouvernement de libérer les prisonniers politiques et d'opinion. Cette organisation l'a fait savoir ce jeudi à Kinshasa. C'était à l'occasion d'une journée de réflexion. Ousseini Fataki, président des ONG, lui dit à Paul Matendo.
Depuis la mise en œuvre de l'accord de Saint-Sylvestre, qui était censé aboutir à la décrispation du climat politique, il n'y a rien qui a évolué. Les prisonniers politiques sont encore là, personne n'a été libéré. Les arrestations des jeunes continuent à se faire fréquemment dans notre pays. Nous demandons au gouvernement de faire des efforts, libérer les prisonniers politiques, laisser ceux-là qui sont à l'étranger venir pour que tout le monde puisse participer aux élections. Les élections sont un droit à tout Congolais. À la CENI, de faire des efforts, d'écouter les uns et les autres. La CENI n'organise pas les élections primaires de la majorité. Ce sont les élections nationales, ce sont les élections qui intéressent tout le monde. Tous les Congolais doivent faire partie de ces élections. Nous demandons à la CENI de contribuer à l'avancement du climat de paix dans ce pays en écartant purement et simplement l'usage de la machine pour les opérations électorales qui vont être organisées dans notre pays.
En rapport toujours avec les élections, fin hier à Kinshasa, de la formation des magistrats sur la gestion du contentieux électoral en RDC. Les magistrats des cours d'appel et des parquets presse et cours ont été outillés sur les textes réglementaires en matière des contentieux concernant plus particulièrement les élections provinciales. Le deuxième secrétaire, rapporteur du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, résume les grandes lignes de cette formation. Aimé Mayengo le dit à Jeff Ngoy.
Ce qu'on peut retenir de cet atelier, c'est qu'il y avait des objectifs qui étaient assignés par ces séminaires de formation. C'était que les magistrats puissent avoir suffisamment d'informations sur la loi électorale, les innovations, qu'ils puissent échanger l'expérience en matière de traitement des contentieux électoraux. Tous ces objectifs ont été atteints. La formation, ça a permis, à l'heure qu'il est, d'outiller tous les participants. Ils sont prêts à prendre en charge la gestion du contentieux électoral qui va commencer après le 25 juillet. Dès que la CENI va publier la liste des candidats retenus à la députation provinciale. Dès que la CENI va publier la liste, comment on se fait qu'ils ne seront pas satisfaits de la publication, dont les dossiers auront été rejetés, ils sont en droit de saisir les juridictions compétentes pour l'examen de leurs requêtes conformément à la loi.
Au Kasaï central, l'ONG Dynamique pour la promotion et la défense des droits humains appelle les regroupements politiques engagés au processus électoral à se doter des personnalités juridiques. Son coordonnateur national a lancé cet appel ce mercredi à Kananga. Maître Oscar Mukengeshai estime que ce document leur permettra d'aller en justice en cas de contentieux électoraux. Cet avocat redoute déjà une éventuelle crise dans l'avenir si rien n'est fait en avance par les concernés. Maître Oscar Mukengeshai est au micro de Blaise Ndongala.
Pour exister, il faut avoir un arrêté ministériel. Vous constaterez que toutes ces plateformes n'ont pas d'arrêté qui les reconnaissent comme telles. C'est dans ces conditions-là que nous lançons un appel à toutes ces plateformes de prendre mesures de prudence, soit obtenir un arrêté ministériel. Parce que la Cour suprême, siégeant comme Cour constitutionnelle, avait déjà rendu plusieurs arrêts qui avaient constaté que toute organisation politique qui n'a pas de personnalité juridique ne peut pas agir en droit ou devant les instances pour contester les résultats ou bien contester les candidatures. Imaginez-vous ce qui peut arriver lorsque on a un candidat proclamé président de la République, mais les plateformes qui viennent pour contester, on dit que vous n'avez pas qualité parce que vous n'avez pas d'arrêté. Imaginez-vous ce qui peut nous être réservé ces jours-là. C'est ainsi que nous lançons une sonnette d'alarme.
Place présentement aux nouvelles de santé et de sécurité. Choléra, manque d'eau au robinet en Mbujimayi. La ville diamantifère de la RDC fait face à une carence d'eau potable fournie par la régie des eaux depuis près d'une semaine. Les ménages se contentent de l'eau vendue en bidon de 20 litres par des pédaleurs qui circulent à vélo à travers les différents quartiers. Une pénurie qui ne facilite pas la lutte contre l'épidémie de choléra qui s'est installée dans la ville de Mbujimayi depuis bientôt 4 mois. Reportage de Chris Moukand.
À la base de cette situation de manque d'eau potable au robinet, le déficit en énergie électrique. Outre les difficultés de fonctionnement des machines de la société NRK, les incivils confectionnaient plus de 10 mètres de câbles qui alimentent la station de pompage de la régie des eaux à Bakwakapanga. Du coup, il est devenu compliqué de desservir les habitants non potables. Par ailleurs, les affaires semblent bien se porter pour les colporteurs à vélo qui proposent de l'eau en bidon de 20 litres. Cette même quantité qui se vend en temps normal à 200 ou 300 francs congolais se négocie aujourd'hui à environ 1000 francs congolais. Mais l'origine et la qualité de ce liquide, pas aisé de s'en assurer, ce qui suscite la peur dans le chef de la population dans le contexte d'une ville en proie à l'épidémie de choléra. Le médecin chargé de la maladie au Kasaï oriental reconnaît que la lutte a pris un coup avec l'interruption de la desserte. Même s'il n'y a pas beaucoup de nouveaux cas enregistrés, le nombre de malades demeure élevé. En vue de pallier à cette carence, des pompes de potabilisation de l'eau sont en phase d'installation le long de la rivière Mouya. Ainsi, les populations riveraines pourraient s'y approvisionner sans risque. Il y a également des équipes d'agents sanitaires qui sont larguées pour distribuer les purifiants Aquataps. Pendant ce temps, le choléra a franchi les limites de la ville de Mbujimayi. On en a décelé des cas dans les zones de santé rurale de Mukumbi et Chilingué, indique Dr Jean-Pierre Sumba Katende. Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Kapi.
En territoire de Rutshuru, 3 notables qui se déclarent chefs coutumiers légitimes des groupements Djomba, Vugari et Bouéza en chefferie de Bouicha dénoncent ce qu'ils appellent usurpation de leur pouvoir coutumier par des tierces personnes. Celles-ci, qui exercent déjà ses fonctions coutumières, seraient des surcroît reconnues au sein de la commission d'arbitrage des conflits coutumiers, organe institué pourtant pour trancher les conflits coutumiers dans la même chefferie. Ces notables réclament qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Sifa Maguru nous en parle.
Dans une lettre adressée au président de cette commission d'arbitrage de la chefferie de Bouicha, Pierre Ondiba Milulenga de Rugari, Seguio Bebaati Remi de Djomba et Nionzima Mfitumikiza de Bouéza, s'appuyant sur des conclusions des sondages de la commission mixte nationale et locale d'octobre 2016, contestent la légitimité des chefs des groupements actuellement en fonction dans la chefferie de Bouicha. Ces notables dénoncent aussi les trafics d'influence qu'exerceraient selon eux certains politiciens dans le règlement des conflits coutumier de Bouicha dans le Rutshuru, Pierre Ondiba Milulenga.
Et on se demande comment un usurpateur peut habiter des conflits coutumiers d'une entité quelconque. Alors voilà pourquoi nous avons écrit une lettre au président de cette commission pour contester ces membres-là et pour qu'on puisse nous investir dans nos groupements respectifs.
Le président de la dite commission d'arbitrage de Bouicha reconnaît avoir reçu la lettre de ces notables. Il indique en revanche que ce dossier sera étudié au moment opportun et que ces notables seront entendus. Pour sa part, le chef de division des affaires coutumières au Nord Kivu précise qu'en cas de non-satisfaction au niveau local, les plaignants ont le droit de saisir la commission provinciale d'arbitrage des conflits coutumiers. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Une bonne nouvelle pour les usagers de la route nationale numéro 5. Les travaux de réhabilitation de cette route qui va du Haut-Katanga au Sud-Kivu en passant par le Tanganyika vont bientôt reprendre. C'est ce qu'on apprend des sources proches de la cellule des infrastructures. Ces sources citent les exigences environnementales comme l'une des causes ayant entraîné la suspension de ce projet financé par la Banque mondiale. Les détails avec Expedi Mombamoubi.
Suspendu depuis plusieurs mois, les travaux de réhabilitation de la RN5 vont pouvoir bientôt reprendre. Fidel Kimbete, chargé des missions à la cellule des infrastructures, dit pourquoi le projet a été un temps suspendu.
Le projet de la RN5, ça a été suspendu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des documents environnementaux à présenter. Bon, nous avons terminé avec tous les documents environnementaux. Maintenant, il restait que il faut que les agents qui vont travailler sur les routes soient formés pour que qu'on lève la suspension, que les travaux reprennent.
Alors qu'il est, les travailleurs de la RN 5 reçoivent une formation sur la prévention des violences sexuelles basée sur le genre. D'après notre source, ce sont des exigences de la Banque mondiale. Il reste que, au moment où les travaux de réhabilitation de la RN 5 sont sur le point de redémarrer, le chargé des missions se fait quelques soucis. Fidèle Kimbété.
Il n'y a pas cette facilité-là, surtout au niveau des barrières. Vous voyez que les gens qu'on a placés sur les barrières-là, on les a placés sur la route. Alors notre petit souci, c'est ça, qu'ils doivent comprendre que c'est nous qui travaillons la route et nous avons l'accessibilité de passer sur cette route-là.
Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous partons du Nigeria avec la liste des victimes des violences intercommunautaires qui s'élargit. Ces derniers temps, des policiers font eux aussi les frais de cet interminable conflit qui a déjà fait des ravages parmi les éleveurs musulmans et les agriculteurs chrétiens. Un policier a été poignardé hier mercredi par un éleveur musulman dans l'état de Kebbi au nord-ouest. Le berger a été maîtrisé et arrêté. Ce meurtre intervient quelques trois mois après l'assassinat de quatre policiers dans l'état de Benue au centre. Les négociations entre le gouvernement mozambicain et l'opposition vont bon train. Le président Philippe Nyusi et le chef de l'Arenamo, l'ex-rébellion convertie en parti d'opposition, ont annoncé hier mercredi avoir fait avancer l'agenda des négociations sur l'intégration d'anciens rebelles dans la police et l'armée. Au cours de ces discussions, le gouvernement a exigé le démantèlement immédiat des unités d'armée de l'Arenamo, une proposition que l'opposition semble prête à accepter, mais en contrepartie, elle réclame l'intégration de ses militants dans les forces de police du pays. Nous terminons par le Mali, élection présidentielle malienne le 29 juillet prochain, meeting, conférence de presse, œuvre de charité. Depuis l'ouverture le 7 juillet de la campagne électorale, les 24 candidats dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka et le principal opposant et challenger Soumaïla Cissé ne lésinent pas sur les initiatives afin de remporter la présidentielle. Demain vendredi, à peine quelques 8,5 millions de Maliens, voire moins, pourraient se présenter devant les bureaux de vote. Si l'on s'en tient aux chiffres officiels de 2016, la population malienne est estimée à 17,8 millions d'habitants.